Vous écoutez On lit pour vous.
Alzheimer, où en sommes-nous? Un dossier d'Alain Labelle, paru le 22 mars 2025 sur le site de Radio-Canada. Le docteur Ziad Nasreddine reçoit des patients dans son bureau du boulevard Taschereau à Longueuil depuis pratiquement 30 ans. C'est à cet endroit que j'ai rencontré le neurologue à trois reprises au milieu des années 2000. Ma sœur et moi avions persuadé notre mère de consulter un spécialiste. Nous étions convaincus qu'elle perdait la mémoire. Elle était certaine du contraire, mais avait finalement décidé de se présenter au rendez-vous pour nous faire mentir. Elle était donc très fière d'avoir obtenu 29 sur 30 lorsqu'elle a effectué pour la première fois le mot surnommé « Test de Montréal » et rendu célèbre par le président Trump, qui s'était vanté en 2018 de l'avoir réussi haut la main. On aurait pu l'appeler « le test de Longueuil », puisque cet outil de dépistage des atteintes neurocognitives légères a été conçu par le docteur Nasreddine et son équipe. Cette évaluation d'une quinzaine de minutes est devenue, depuis les années 2000, l'un des outils de dépistage des atteintes neurocognitives légères les plus utilisés dans le monde. Il est maintenant traduit dans 100 langues et dialectes. Le mot « cas » prend la forme d'un questionnaire à réponse courte, comprenant quelques tâches que doit accomplir la personne. Par exemple, l'évaluateur lui demande de dessiner une horloge en plaçant tous les chiffres et en indiquant une certaine heure ou de nommer la série d'animaux dessinés sur une feuille. Il permet d'évaluer la mémoire à court terme, les habiletés visuo-spatiales, les fonctions exécutives, l'attention, la concentration, la mémoire de travail, le langage et l'orientation dans le temps et l'espace. Ma mère l'a passé trois fois. Son résultat est passé à 26 à la deuxième occasion, puis à 23 à la troisième. Il faut savoir qu'un score de 18 à 25 indique une atteinte légère. De 10 à 17, on parle d'atteinte modérée. À moins de 10, l'atteinte est sévère. C'est à la suite du troisième test que le diagnostic de ma mère s'est précisé et que le docteur Nasreddine a finalement prononcé l'un de ces mots que l'on ne voulait pas entendre, Alzheimer. La fierté apparue dans les yeux de ma mère lors de la première évaluation avait disparu. Ses yeux étaient maintenant voilés de larmes. Elle ne pouvait plus nier le diagnostic, même si celui-ci prenait plutôt l'allure d'une déduction, puisque, encore dans les années 2000 et jusqu'à récemment, on devait attendre l'examen du cerveau lors d'une autopsie pour confirmer, hors de tout doute, la présence de la maladie. J'écris encore parce que c'était à la suite d'une autopsie que le psychiatre Alois Alzheimer avait décrit pour la première fois les ravages de la maladie dans le cerveau d'une patiente en 1906. C'était toujours la réalité en 2005, puisque nous n'avions pas d'autres moyens d'y parvenir. Aujourd'hui, un début d'espoir apparaît à l'horizon. J'étais très découragée il y a quelques années. Près de 30 ans de pratique sans avoir de réel traitement à offrir à mes patients après leur diagnostic. Mais depuis 2 ans, les choses commencent à bouger, remarque le neurologue. Ma mère ne pourra pas bénéficier des récentes percées puisqu'elle est décédée en 2015. Mais pour les 770 000 Canadiens qui vivent actuellement avec un trouble neurocognitif, et pour les centaines de milliers d'autres qui recevront ce diagnostic dans la prochaine décennie, ces avancées permettent d'espérer tenir la maladie à distance. Une maladie du vieillissement. Il faut savoir que notre compréhension de l'Alzheimer n'a pas beaucoup évolué entre sa découverte au début des années 1900 et le milieu des années 1970. En fait, moins de 150 articles scientifiques ont été consacrés à la maladie d'Alzheimer durant cette période, ce qui est très peu considérant le défi médical qu'elle s'apprêtait à représenter. C'est un éditorial du neurologue américain Robert Katzman, publié en 1976 dans les Archives of Neurology, qui tire la sonnette d'alarme. Il y présente la maladie comme une crise en devenir qui passe sous le radar des autorités de la santé publique. Il affirme que la maladie, décrite comme rare jusque-là, est en fait la cause la plus fréquente des troubles neurocognitifs dans le monde et la quatrième cause de décès aux États-Unis. Mais pourquoi une telle augmentation des cas? On commence alors à comprendre que la maladie est associée au vieillissement et que, si elle comporte un aspect psychiatrique, c'est d'abord une maladie neurologique. J'ai discuté du lien entre la maladie et le vieillissement avec le docteur Jude Poirier de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas, associé à l'Université McGill, l'un des pionniers de la recherche sur les causes de la maladie d'Alzheimer. Sur le plan biologique, la plupart des espèces animales, dont les mammifères, meurent peu de temps après avoir perdu leur capacité de se reproduire, explique-t-il. C'est logique, puisqu'il ne faut pas que les vieux vivent trop longtemps et consomment les ressources au détriment de la survie des plus jeunes et de l'espèce. Ainsi, pendant des siècles, l'humain ne vit pas très vieux. Il y a 15 000 ans, un chasseur-cueilleur mourait avant que son cerveau ne perde de 4 à 8 % de ses neurones tous les 10 ans à partir de l'âge de 30 ans, note le docteur Poirier. Il y a 500 ans, un Européen n'avait ni le temps de voir ses vaisseaux sanguins se bloquer, ni le besoin de contrôler sa pression artérielle, puisqu'il était abattu sur le champ de bataille ou mourait de la famine, souvent avant d'atteindre ses 25 ans. Ce n'est réellement qu'à partir du 19e siècle, mais surtout au 20e siècle, que l'humain commence à tricher, observe Jude Poirier avec humour. À partir de cette époque, les progrès médicaux et sanitaires ont permis de voir l'espérance de vie à la naissance augmenter. Au Canada, en 1901, une femme pouvait espérer vivre jusqu'à 50 ans et un homme jusqu'à 47 ans. Seulement 44 % des femmes et 38 % des hommes atteignaient alors 65 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie dépasse 81 ans pour les deux sexes dans la plupart des pays occidentaux. Ce qui laisse maintenant toute la place au développement de maladies liées à l'âge. Si l'âge ne représentait pas un problème pour l'incidence de l'Alzheimer, dans l'ancien temps, il l'est devenu au siècle dernier, indique le docteur Jude Poirier, en se référant à la mort des neurones dans le cerveau, mais aussi à toutes les maladies chroniques qui représentent également des facteurs de risque de l'Alzheimer, comme le diabète, et dont le nombre de cas a augmenté dans nos sociétés vieillissantes. Ainsi, il n'est pas surprenant de constater que la prévalence de l'Alzheimer augmente exponentiellement avec l'âge pour frapper entre 15 et 20 % des personnes après 75 ans et entre 25 et 50 % après 85 ans. L'Alzheimer, c'est notre inhabilité à gérer le vieillissement influencé par un paquet de gènes et d'autres facteurs de risque, incluant notre style de vie. Une citation du Dr Jude Poirier, Centre de recherche Douglas. Des bases biologiques identifiées. Dès la fin des années 1970, les efforts de recherche s'intensifient et peu de temps après, on réussit à cerner deux traits caractéristiques de la maladie dans le cerveau. Le rôle de la protéine bêta-amyloïde, A-bêta, est mis en évidence en 1984 par le pathologiste américain George Glenner. Ces protéines s'accumulent entre les neurones et peuvent former des plaques dans certaines régions du cerveau, dont l'hippocampe, une structure reconnue pour son rôle dans la mémoire. Ces dépôts empêchent la transmission des signaux entre les cellules nerveuses cérébrales, ce qui finit par provoquer leur mort, puis le déclin cognitif du patient. Le rôle de la protéine Tau est découvert en 1985 par le Belge Jean-Pierre Brion. Cette protéine fait en quelque sorte partie du squelette interne des neurones. On peut comparer son rôle à une voie ferrée empruntée par les nutriments et autres substances nécessaires pour maintenir les neurones en vie. Or, dans un cerveau malade, cette voie se torsade, ce qui mène à la formation d'amas de fibres enchevêtrées. Ces enchevêtrements empêchent les nutriments d'atteindre les cellules cérébrales, ce qui provoque leur mort, et ce qui mène aussi au déclin cognitif. Le docteur Serge Gauthier, directeur de l'unité de recherche sur la maladie d'Alzheimer au Centre de recherche Douglas, rappelle que les rôles de ces deux protéines ont animé de nombreuses discussions chez les experts de l'Alzheimer. On a débattu pendant 30 ans pour savoir laquelle des protéines était plus importante que l'autre, pour se rendre compte, depuis peu, que les deux sont essentielles pour développer la maladie. Une citation du Dr Serge Gauthier, Centre de recherche Douglas. Mais encore aujourd'hui, la médecine peine à déterminer ce qui provoque la formation des plaques d'amyloïde et des enchevêtrements de Tau dans le cerveau. Pour certains chercheurs, la protéine Tau serait présente dans le cerveau avant l'amyloïde, mais c'est cette dernière qui, en formant des plaques, changerait la nature de la protéine Tau qui deviendrait peu à peu toxique pour le cerveau. Une maladie multifactorielle. Les experts s'entendent toutefois sur un fait. Les deux protéines sont précurseurs de la pathologie et elles n'agissent pas seules dans son développement. La nature multifactorielle de la maladie se confirme peu à peu. Il faut aussi un troisième élément pour que les symptômes émergent chez les gens de plus de 65 ans qui ne présentent pas de facteurs génétiques de risque trop importants, explique le docteur Serge Gauthier. Ce troisième élément, c'est l'inflammation. Nous savons maintenant que l'amyloïde peut se déposer dans la paroi de petits vaisseaux sanguins, produire de l'inflammation et créer de petits accidents vasculaires cérébraux. Nous pensons aussi qu'il existe un lien entre l'activité inflammatoire dans le cerveau et l'apparition de la maladie, mais rien n'est prouvé pour le moment, dit Serge Gauthier. Des scientifiques de Montréal tentent actuellement de mesurer le niveau d'activité inflammatoire dans le cerveau. Cette avancée représenterait une importante percée pour associer les niveaux d'inflammation aux différentes étapes de l'évolution de la maladie. Et la bonne nouvelle, c'est que des médicaments efficaces permettent déjà de contrôler l'inflammation, note le Dr Gauthier, qui est membre d'une équipe de l'Université d'Oxford dont la mission est d'évaluer comment des médicaments existants contre l'hypertension artérielle, le cholestérol, le diabète ou la douleur pourraient éventuellement lutter contre l'Alzheimer. Des prédispositions génétiques. Dans les dernières décennies, pas moins de 75 gènes ont été associés à la pathologie. Ces découvertes successives ont permis de différencier clairement les deux formes de la maladie sur le plan génétique, soit la forme familiale et la forme sporadique qui se présente avec l'âge. Quelques gènes sont associés à l'apparition de la forme familiale et précoce, avant 60 ans, qui représente moins de 5 % des cas. Puis, en 1993, le Dr Poirier et des collègues font une découverte majeure. Le gène qui code pour la production de l'apolipoprotéine E, une protéine qui participe au transport du cholestérol dans le sang et le cerveau. Ces chercheurs ont établi que l'une des trois mutations du gène, l'apoE4, est le principal facteur de risque génétique de la forme sporadique de l'Alzheimer. J'ai appris que j'étais porteur de l'une de ces mutations après avoir réalisé un test en vente libre sur Internet. Ce n'était pas une surprise. Environ 30 % de la population présente au moins une de ces mutations et ma mère devait en posséder au moins une, puisqu'elle a développé des symptômes après ses 70 ans. J'aurais mieux aimé me trouver de l'autre côté de la statistique. Mais suis-je certain pour autant de voir un jour la maladie s'installer dans mon cerveau? Le docteur Jude Poirier m'explique. Si vous héritez d'une ou deux copies de l'APOE4 de vos parents, vous naissez avec une vulnérabilité génétique, mais celle-ci n'est pas suffisante pour développer à elle seule la maladie. Le professeur Charles Ramasamy, de l'Institut national de la recherche scientifique, INRS, et titulaire de la chaire de recherche Louise et André Charon sur la maladie d'Alzheimer, affirme que la médecine n'explique toujours pas le brouillard qui entoure le rôle de l'APOE4 dans l'augmentation du risque de l'Alzheimer. Le mystère persiste encore aujourd'hui. Il y a plusieurs pistes, dont celle de son rôle dans le transport des lipides et du cholestérol. Les porteurs de la mutation E4 pourraient ainsi avoir un apport déficitaire en cholestérol. Les cellules nerveuses ont besoin de cholestérol et de lipides pour que leur structure fonctionne bien. Chez les porteurs de l'APOE4, la structure des cellules nerveuses pourrait être de moins bonne qualité. Une citation de Charles Ramasamy, INRS. Le diagnostic aujourd'hui. Lorsqu'il rencontre un patient, le docteur Nasreddin peut maintenant compter sur des outils dont il ne disposait pas à l'époque du diagnostic de ma mère et qui rendent son travail plus précis. Il y a 20 ans, pour bien comprendre la cause du trouble de mémoire de ta mère, en plus du test cognitif, il fallait établir son histoire clinique, regarder ses antécédents médicaux et les médicaments qu'elle prenait. Une citation du docteur Ziad Nasreddin, clinique MOCA. Nous devions aussi voir comment les symptômes progressaient dans le temps, poursuit le neurologue. Évidemment, de nos jours, on doit toujours évaluer la condition cognitive d'un patient à l'aide de tests. Mais depuis 2008, on est capable de voir la maladie directement dans le cerveau et dans le sang du vivant de la personne atteinte grâce à deux examens, un test d'imagerie en médecine nucléaire et une ponction lombaire. On est ainsi passé d'un diagnostic déduit à un diagnostic observé. Le test d'imagerie détecte la présence et les dépôts de protéines bêta-amyloïdes et de la protéine tau dans le cerveau. La ponction lombaire, elle, permet de traquer les protéines bêta-amyloïdes et tau dans le liquide céphalo-rachidien. Si cette dernière technique est la plus fiable pour mesurer le taux des biomolécules associées à la maladie, elle n'est que très peu pratiquée par les médecins de famille, puisqu'elle consiste en l'introduction d'une aiguille de prélèvement entre deux vertèbres, une procédure complexe qui nécessite une anesthésie locale. De plus, des tests sanguins sont aussi utilisés pour éliminer d'autres problèmes de santé qui présentent des symptômes similaires à l'Alzheimer. Par exemple, l'hypothyroïdie et une déficience en vitamine B12. Établit-on un diagnostic dès qu'on observe de l'amyloïde dans le cerveau d'une personne ou dès l'apparition de ses symptômes cognitifs? Cette réalité fait débat dans la communauté médicale. Il faut savoir que la protéine bêta-amyloïde peut être présente dans le cerveau sans causer de troubles cognitifs. Certains chercheurs américains pensent que dès que vous avez des dépôts d'amyloïde dans le cerveau, vous êtes atteint de la maladie d'Alzheimer. Pour le reste de la planète, dont le Canada, ce n'est pas le cas. Il faut avoir des symptômes pour parler de maladie d'Alzheimer. Une citation du Dr Serge Gauthier, Centre de recherche Douglas. La question est importante, tant sur le plan médical que sur le plan légal. Les gens qui apprennent à 50 ans qu'ils ont de l'amyloïde dans le cerveau, et par le fait même l'Alzheimer, pourraient perdre leur emploi ou leurs assurances, sans présenter de symptômes pour de nombreuses années, ajoute le Dr Gauthier. Enfin, des tests sanguins. Ce qui est vraiment nouveau et qui va littéralement révolutionner le diagnostic de la maladie, c'est l'arrivée cette année au Canada d'un simple test sanguin qui détectera la maladie beaucoup plus tôt dans son évolution. Un test qui aurait permis à ma mère d'obtenir un diagnostic plus rapide et peut-être d'avoir accès tout aussi vite à un traitement pouvant freiner les symptômes et de vivre quelques années de plus en santé cognitive. C'est réellement un point tournant, s'enthousiasme le docteur Serge Gauthier, qui a participé à l'étude sur le test sanguin en collaboration avec une équipe suédoise. Le test mesure avec exactitude le taux sanguin de pTau181, l'une des protéines en cause dans la maladie, sans que le patient ait à subir un test d'imagerie ou une ponction lombaire. Il y a des fragments de la protéine tau qui reflètent ce qui se passe dans le cerveau au début de la maladie, d'autres fragments un petit peu plus tard. Si on combine ces fragments avec le niveau de l'amyloïde et la présence de l'APOE4, vous obtenez un test diagnostique fiable. Une citation du Dr Serge Gauthier, Centre de recherche Douglas. Ce test est déjà disponible aux États-Unis et il devrait l'être partout au Canada d'ici la fin de l'année. Il pourra servir au dépistage de la maladie en première ligne. Des premiers symptômes qui se précisent. Nous le savons depuis toujours, les premiers symptômes comprennent un trouble de la mémoire récente. C'est ce qui nous a mis la puce à l'oreille dans le cas de ma mère, et c'est ce qui inquiète tous ceux qui oublient ou se trouvent leurs clés un peu trop souvent. Mais ce problème, plutôt répandu en vieillissant, doit aussi, pour qu'on soupçonne un cas d'Alzheimer, être accompagné d'une lenteur à prendre des décisions et d'une hésitation à trouver ses mots. Ce petit quelque chose qui change chez une personne et que les proches peuvent parfois percevoir. Récemment, on a identifié des indices de nature psychiatrique et le chercheur canadien Zainor Ismail de l'Université de Calgary est une figure de proue dans le domaine. Le psychiatre a créé une liste qui décrit les symptômes qui affectent la personnalité. Mild Behavioral Impairment Checklist et qui accompagne les premiers symptômes cognitifs. On parle de retrait social, de passivité, d'apathie et d'impatience. Ces symptômes ne sont pas spécifiques et peuvent varier d'une personne à l'autre, indique le Dr Gauthier. L'un des aspects les plus récents dans notre compréhension de l'Alzheimer concerne la phase qui précède l'apparition des symptômes. La maladie d'Alzheimer débute bien avant que les symptômes émergent, affirme le Dr Gauthier. En effet, la pathologie apparaît silencieusement dans le cerveau dans une période de 15 à 20 ans précédant les premiers oublis notables. Durant cette période pré-symptomatique, des fragments d'amyloïde s'accumulent entre les neurones avant que les plaques se forment, des changements dans la structure de la protéine tau intracellulaire apparaissent et la neuroinflammation s'installe. Puis, de 3 à 5 ans avant un diagnostic, vient la phase des symptômes légers, troubles neurocognitifs légers. Ce n'est pas une période asymptomatique, mais ce n'est pas la démence. La personne ne présente que de petits oublis ou une lenteur à prendre des décisions. Rien qui l'empêche de s'adapter dans la vie de tous les jours, note le Dr Gauthier. L'identification de cette phase de prédémence a beaucoup d'importance, puisque c'est peut-être le seul moment où l'on peut intervenir sur la pathologie principale. Citation du Dr Serge Gauthier, Centre de recherche Douglas. De nouveaux médicaments. Il n'existe toujours pas de médicaments qui permettent de guérir l'Alzheimer. Et il est assez clair pour les chercheurs qu'une cure n'apparaîtrait pas dans la prochaine décennie. Ceux qui sont approuvés par Santé Canada ne font que ralentir son évolution. Depuis la fin des années 1990, les médecins prescrivent habituellement des inhibiteurs de la cholinestérase, donépézil, aricette, galantamine, réminyl et rivastigmine, excellon, à leurs patients dès le diagnostic. Ces médicaments augmentent l'acétylcholine dans le cerveau. Ce neurotransmetteur joue un rôle important dans la mémoire et l'attention. Ils permettent une amélioration de la capacité d'attention et de la mémoire chez certaines personnes. Ils peuvent aussi stabiliser certains symptômes comme l'humeur. On retarde aussi l'émergence de l'agressivité chez certains patients. Une citation du Dr Serge Gauthier, Centre de recherche Douglas. Ces médicaments peuvent causer des effets secondaires, particulièrement importants chez les personnes qui possèdent une ou deux mutations APOE4. C'est le Dr Jude Poirier et ses collègues qui ont réussi à associer ces mutations aux effets négatifs qui comprennent confusion, nausées, vomissements, faiblesse musculaire ou fatigue inhabituelle. Depuis 2023, deux nouveaux médicaments, les anticorps monoclonaux, lecanemab et donanemab, ont été approuvés par l'Agence américaine des médicaments, FDA. Ils sont actuellement évalués par Santé Canada. Ces médicaments, administrés en perfusion, empêchent la bêta-amyloïde de s'agglomérer en plaques, mais ils sont loin d'être miraculeux. Si les deux molécules, lecanemab et donanemab, permettent de retirer pratiquement toute l'amyloïde du cerveau des sujets, elles ne ralentissent cependant la progression de la maladie sur 18 mois que d'environ 25 %, ce qui n'est pas un miracle si l'on considère leurs effets secondaires, explique le Dr Jude Poirier. Son collègue, le Dr Serge Gauthier, explique ses effets. Ils peuvent causer un gonflement du cerveau et de petites hémorragies cérébrales. Dans de rares cas, le gonflement du cerveau peut être suffisamment grave pour provoquer des crises d'épilepsie, une hémorragie cérébrale entraînant la mort ou d'autres symptômes. Pour ces raisons, la FDA recommande d'effectuer une première imagerie par résonance magnétique, IRM, cérébrale, avant de commencer le traitement, puis d'en réaliser une seconde pendant le traitement pour détecter tout symptôme de gonflement ou d'hémorragie. Ce n'est pas le genre de traitement qu'un médecin de famille peut facilement prescrire. Le patient doit se rendre à la clinique d'infusion d'un hôpital, puis réaliser des examens d'IRM de suivi par la suite, remarque le Dr Gauthier. Il note aussi que les personnes porteuses d'une certaine forme du gène APOE4 semblent présenter un risque plus élevé de ces complications graves. La FDA recommande de tester ce gène avant de commencer le traitement. La prise de médicaments anticoagulants comme la warfarine, Coumadin, est également proscrite pendant un traitement, puisqu'ils peuvent aussi augmenter le risque d'hémorragie cérébrale. Une recherche en ébullition. D'autres études sont en cours pour confirmer l'efficacité des anticorps monoclonaux. Il est certain que cette catégorie de médicaments est porteuse d'espoir, mais pour le moment, l'effet positif n'est pas très significatif. Il est comparable à celui de l'aricette ou à faire de l'exercice, dit le Dr Gauthier. De plus, les résultats obtenus jusqu'à maintenant montrent que même si l'amyloïde est retiré du cerveau, la maladie reste présente. Une réalité qui souligne clairement l'aspect multifactoriel de l'Alzheimer. Des scientifiques tentent aussi de mettre au point des vaccins qui ciblent la protéine Tau. L'objectif? Stimuler le système immunitaire pour qu'il produise des anticorps qui reconnaissent et éliminent les enchevêtrements anormaux avant qu'ils n'abîment les neurones. Mais cibler la protéine Tau représente un défi supplémentaire, puisqu'elle se trouve à l'intérieur des cellules, contrairement à l'amyloïde. Ainsi, pour attaquer la Tau, Il faut non seulement passer la barrière encéphalique, qui protège le cerveau des substances indésirables qui peuvent circuler dans le sang, mais il faut aussi atteindre l'intérieur des neurones. Certains essais cliniques sont en cours. Pour le moment, les résultats préliminaires sont mitigés, mais le docteur Poirier pense que des données encourageantes pourraient être annoncées ce printemps. Une chose est certaine, de nombreux défis doivent encore être surmontés avant qu'un vaccin soit proposé dans l'arsenal des traitements réguliers. D'autres molécules orales sont actuellement à l'étude. Il y en a une particulièrement intéressante qui est dérivée du bleu de méthylène, soulève le docteur Gauthier. On a beaucoup d'espoir qu'elle agisse directement sur la protéine Tau pour l'empêcher de former des agrégats. L'équivalent britannique de Santé Canada l'évalue actuellement, note-t-il. Des résultats préliminaires d'études menées sur la famille de médicaments prescrits pour traiter le diabète de type 2 et l'obésité, dont le sémaglutide, Ozempic, semble montrer qu'elle ralentit la perte de mémoire et améliore les fonctions cognitives. Le docteur Poirier est très enthousiaste. Les résultats préliminaires sont impressionnants pour les diabétiques qui sont à haut risque de développer l'Alzheimer parce que le diabète est l'un des facteurs de risque très importants. Une soixantaine de médicaments sont actuellement en développement pour permettre de mieux gérer les aspects comportementaux liés à l'Alzheimer. Certains d'entre eux pourraient être commercialisés dans les prochaines années. D'autres avenues de recherche contre les processus biologiques associés à la formation des lésions cérébrales sont aussi explorées, notamment le stress oxydant. Nos travaux montrent que des personnes qui ont un déséquilibre entre les oxydants et les antioxydants dans le sang présentent un risque beaucoup plus élevé de développer la maladie au moins 5 ans plus tard. Une citation de Charles Ramasamy, INRS. Le professeur Ramasamy explique qu'il est possible d'augmenter son apport en antioxydants par la nutrition, puisque les fruits et les légumes en contiennent beaucoup. Prévenir, c'est retarder la maladie. Manger des fruits et des légumes peut sembler futile devant une telle maladie, mais une saine alimentation est pourtant l'une des armes de prévention pour retarder l'Alzheimer. La chercheuse Sylvia Villeneuve, directrice du Centre d'études sur la prévention de la maladie d'Alzheimer à l'Institut Douglas, souligne que le fait de savoir que la maladie s'installe tranquillement jusqu'à 20 ans avant l'apparition des premiers symptômes permet de penser qu'il existe une zone de prévention où il est encore possible de réduire les risques ou de repousser l'apparition de la maladie. On pense qu'à peu près 45 % des facteurs de risque de la maladie sont modifiables, ce qui n'est pas rien. Une citation de Sylvia Villeneuve, Centre d'études sur la prévention de la maladie d'Alzheimer à l'Institut Douglas. La bonne nouvelle, c'est que nous connaissons les 14 facteurs de risque à surveiller et que l'on peut contrôler. Ces facteurs sont l'inactivité physique, le tabagisme, la consommation excessive d'alcool, l'obésité, la dépression, un faible niveau d'éducation, l'hypercholestérolémie, l'hypertension artérielle, le diabète, la perte de vision, la perte d'audition, la pollution de l'air, les lésions cérébrales traumatiques et l'isolement social. Tous les chercheurs avec qui je me suis entretenue insiste particulièrement sur l'importance de garder des liens sociaux pour prévenir la maladie. La socialisation, c'est toutes les formes de cognition qui sont activées en même temps. Quand vous êtes dans un souper où quatre personnes discutent, il faut porter attention, explique Sylvia Villeneuve. Pour cette raison, il est important de s'assurer de bien entendre. Une oui déclinante peut mener à l'isolement. C'est particulièrement vrai pour les hommes qui ont tendance à minimiser leurs problèmes d'audition. Tu n'entends pas? Tu ne participes pas à la conversation. Et cela provoque littéralement l'isolement social, insiste le docteur Jude Poirier, pour qui le contact avec les autres est essentiel pour garder son cerveau stimulé et performant. La neuropsychologue Sylvia Villeneuve dirige la cohorte « Prévenir Alzheimer » qui regroupe 220 volontaires qui participent à des études de longue durée sur les facteurs de risque de la maladie. Dans ce cadre, elle étudie, entre autres, le sommeil. Les participants qui ont un sommeil de moindre qualité, peut-être moins réparateur, présentent une accumulation plus rapide de la bêta-amyloïde dans le cerveau. Une citation de Sylvia Villeneuve, Centre d'études sur la prévention de la maladie d'Alzheimer, à l'Institut Douglas. On n'est peut-être pas dans la cause à effet, mais on est carrément dans quelque chose qui montre l'importance du sommeil dans la prévention de la maladie, note-t-elle. Dans l'une des études réalisées grâce à la cohorte, Sylvia Villeneuve a été particulièrement surprise de constater une association entre la pleine conscience et des niveaux moins élevés des protéines amyloïdes et tau dans leur cerveau. La pleine conscience est un état d'esprit. C'est le fait de vivre le moment présent, de ne pas juger, explique Sylvia Villeneuve. Vous allez prendre une marche en forêt. C'est la différence entre celui qui marche et qui profite de l'instant et celui qui pense à ce qu'il doit accomplir au travail le lendemain. Une citation de Sylvia Villeneuve, Centre d'études sur la prévention de la maladie d'Alzheimer à l'Institut Douglas. C'est fort probable que la personne qui est dans le moment présent est moins stressée, et le stress n'est pas bon pour le cerveau. Cela permet de diminuer certains facteurs de risque, comme les maladies vasculaires, ajoute la chercheuse. Dans un tout autre ordre d'idées, le professeur Charles Ramasamy dit que la prévention passe aussi par une bouche en santé, puisque plusieurs recherches montrent que le microbiote buccal peut aussi avoir un effet important sur le risque de développer la maladie. Nous pensons que les vésicules qui sont libérées par des bactéries présentes au niveau buccal peuvent se retrouver dans le sang et induire des effets toxiques dans le cerveau, affirme-t-il. Au-delà des bénéfices individuels, reporter l'apparition des symptômes grâce à la prévention peut aussi avoir des impacts positifs sur la santé publique. Pour le docteur Jude Poirier, des simulations mathématiques sont assez pertinentes pour l'expliquer. Reporter l'apparition des symptômes de seulement quelques années serait un triomphe énorme en santé publique, puisque l'Alzheimer est une maladie du vieillissement. Par exemple, en retardant l'apparition de seulement 2 ans, on éliminerait 36 % de tous les cas. Ces personnes mourraient d'une autre cause. Si on les reporte de 5 ans, cela représente 50 % de tous les cas. De l'espoir pour ma mémoire. J'ai 54 ans. Le temps passe et je m'approche inexorablement de l'âge qu'avait ma mère lorsque son Alzheimer a été diagnostiqué. En fait, je me trouve quelque part à la limite de la phase pré-symptomatique de la maladie. Il n'est donc pas étonnant que chaque fois que j'oublie mon téléphone, mes clés ou le nom d'une personne que l'on m'a déjà présentée, je me demande si j'en suis aux premiers symptômes. Hypochondriaque, s'abstenir. Devrais-je être encouragé par les dernières percées réalisées ces dernières années? Tous les experts consultés pour la rédaction de cet article répondent par l'affirmative. Le docteur Jules Poirier remarque que l'espoir est de retour après les échecs à répétition qui ont marqué les années 2005 à 2015. Je pense qu'il y a eu une soixantaine d'études cliniques de phase 3 qui n'ont rien donné. Les poids lourds de l'industrie pharmaceutique, comme Pfizer, se sont découragés et ont abandonné leurs recherches. Puis sont arrivés les anticorps monoclonaux, lecanemab et donanemab. Les résultats de ces molécules ne sont peut-être pas très impressionnants, mais ils représentent quand même un succès. Assez pour que certaines compagnies relancent leur programme de recherche, note le docteur Poirier. Une chose est certaine, le climat n'est pas morose comme il l'était en 2022 lorsqu'on a appris que certaines données à la base d'une étude phare sur la maladie d'Alzheimer publiée en 2006 avaient été falsifiées. Par la suite, les équipes de recherche qui s'étaient fiées à ces données concernant un sous-type d'agrégat de protéines bêta-amyloïdes ont constaté qu'elles avaient tout simplement perdu leur temps. Le docteur Gauthier note que notre perception de la maladie va changer dans les prochaines années. Elle pourrait bientôt être abordée comme une maladie chronique telle que le diabète. On adoptera certainement une approche préventive et une prise en charge mieux structurée, avec un traitement qui va ressembler à la chimiothérapie pour certains types de cancers, prévoit-il. Ainsi, un futur traitement de la maladie d'Alzheimer sera une combinaison de médicaments similaire au traitement de cancer ou du VIH-SIDA. L'espoir qui se dessine, c'est de voir apparaître des cliniques de prévention pour le cerveau comme on en a pour le cœur, le cancer ou le diabète. Une citation du docteur Serge Gauthier. Pour le docteur Nasreddin, le futur test sanguin va démocratiser le diagnostic puisqu'il sera moins invasif qu'une ponction lombaire et moins cher que les examens en médecine nucléaire. J'arrive à la fin de ma carrière. Je peux maintenant réaliser des diagnostics précoces et je pourrai bientôt proposer de nouveaux traitements, se réjouit le neurologue. Il faut intervenir le plus tôt possible. Les nouveaux médicaments fonctionnent mieux chez les gens qui ont une atteinte moins importante au niveau cognitif. Si vous avez des symptômes cognitifs, il ne faut pas tarder à consulter. Une citation du docteur Ziad Nasreddin, neurologue. Dans mon cas, le risque de développer la maladie est bien réel. Peut-être que je m'asseoirai un jour dans le bureau du successeur du docteur Nasreddin. Mais d'ici là, je peux agir sur les facteurs de risque pour retarder les premiers symptômes. Et qui sait? La médecine n'a certainement pas dit son dernier mot dans sa quête d'une cure. C'était Alzheimer, où en sommes-nous? Un dossier d'Alain Labelle, paru le 22 mars 2025 sur le site de Radio-Canada.
Ma lettre d'amour à Jeannette Bertrand, Une chronique de Julie Vaillancourt parue le 21 février 2025 dans le magazine Fugue. Le 25 mars prochain, Jeannette aura 100 ans. En un siècle d'existence, cette journaliste, comédienne et écrivaine québécoise a vécu davantage que nombre d'entre nous. Hommage à une grande dame de chez nous qui ne craint pas d'utiliser sa tribune pour mettre de l'avant la voix des femmes. Déjà en 1952, dans le classique « La petite Aurore, l'enfant martyr » de Jean-Yves Bigras, alors qu'elle incarnait Catherine, la voisine d'Aurore, elle désirait utiliser sa voix pour dénoncer les mauvais traitements que la petite subissait de sa belle-mère. Certes, toute sa bonne volonté n'aura pas suffi ici, puisque l'histoire vraie de ce classique fut écrite autrement, mais il n'en demeure pas moins que Jeannette, tout au long de sa vie, mettra de l'avant sa voix pour faire entendre celle des femmes. Une féministe avant l'heure, notamment avec sa chronique au Petit Journal dès 1950. « Je savais que je n'étais pas née dans le bon sexe et mon but, ça a été de prouver à mon père qu'une fille, ça valait un garçon. Pour moi, ça a été un moteur très puissant », avoue-t-elle à Mylène Moisan de la Gazette des Femmes en mars 2023. Née en 1925 dans le Faubourg Amelas, aujourd'hui le quartier centre-sud de Montréal, à l'angle des rues Ontario et Frontenac, elle a toujours revendiqué les droits des femmes et ceux des homosexuels. Ce droit de vivre l'amour autrement, elle l'a popularisé avec l'émission « Avec un grand A », diffusée sur les ondes de Radio-Canada. Dès 1986 et pendant une décennie, elle écrira le scénario de ces épisodes qui aborderont divers sujets tabous à l'époque, dont l'homosexualité, le sida, les soins prodigués aux séropositifs, l'amour après le divorce, la différence d'âge dans le couple, les échanges de couple, la panne de désir, l'infidélité, la violence conjugale, la ménopause, l'obésité, l'alcoolisme, la prostitution, l'infanticide, le suicide des personnes âgées, l'inceste, le harcèlement sexuel au travail, le viol collectif, etc. Bref, tant de sujets qui, encore aujourd'hui, mériteraient une télédiffusion à heure de grande écoute pour, une fois de plus, mener à la réflexion collective. Je me demande si Jeannette Bertrand, du haut de ses 100 ans, après une carrière florissante dans la sphère médiatique et l'écriture de nombreux livres favorisant la réflexion, fulmine au regard des idées rétrogrades de certains individus et dirigeants politiques qui ne font que piétiner l'égalité homme-femme. Des jeunes influenceurs mâles alpha aux vieux politiciens rétrogrades en quête de pouvoir et d'ego, force est d'admettre qu'on ne donne pas la parole et la tribune aux bons interlocuteurs. On devrait élire des Jeannettes au lieu d'élire de vieux messieurs pervers, narcissiques, qui ont des antécédents d'abus sexuels. Lisez l'autobiographie de Jeannette, « Ma vie en 3 actes ». Elle avait près de 80 ans lorsqu'elle l'a écrite. C'est mieux que de lire celle d'un influenceur de 20 ans, qui ne fait que discuter du premier acte de sa vie avec très peu de recul. Les femmes comme Jeannette Bertrand ont du recul. Lorsqu'elle est née, elle était considérée comme une citoyenne de seconde zone, jusqu'à ce qu'elle obtienne le droit de vote en 1940, sans compter nombre de lois rétrogrades qui la rendaient dépendante de son mari. Témoin de l'émancipation des femmes, elle dénonce celles qui s'érigent contre l'avortement, en soulignant sa peur des masculinistes. « Pour les adultes de demain, j'ai peur pour nos enfants. » Les petites filles qui vont sur les réseaux sociaux ou les petits gars qui disent « C'est vrai, c'est nous autres les boss ». J'ai peur que les réseaux sociaux prennent la place des parents pour instruire, avec le danger qu'on retourne à l'ancienne. À la question « Tu comprends pourquoi les hommes tuent les femmes ?» en référence au féminicide, elle répondra « Oui, je comprends, car depuis 8000 ans, ils dominent. » Tout à coup, des femmes disent non. C'est dans la mentalité. Ils ont 8000 ans de domination. Et toutes les religions au monde, c'est un boys club. Ils sont constitués d'hommes qui soumettent les femmes, parce que c'est du trouble, une femme qui ne se soumet pas. Il faut que tu la traites en égale, explique Jeannette à Anne-Marie Dussault à l'émission 24 heures en 60 minutes. Enfin, au sujet de la montée de la droite aux États-Unis avec l'élection de Trump, elle s'insurge. Où sont les femmes américaines? Qu'est-ce qu'elles pensent? Ayant longtemps travaillé dans une résidence pour personnes âgées, j'y ai fréquenté de nombreux résidents, dont cette centenaire. Je lui avais demandé son secret. Cette vieille dame, emplie de sagesse, de me répondre « Chaque soir, je suis déçu. » « Pourquoi ?» lui demandai-je. « Parce qu'une autre journée se termine. Mais chaque matin, au lever du soleil, je m'émerveille et je remercie Dieu de m'accorder une journée de plus pour avoir la chance de le contempler. Ça prenait une centenaire pour me faire comprendre de la manière la plus simple possible ce qu'est réellement la gratitude. Ça nous prend plus de Jeannette pour nous faire comprendre comment les droits des femmes sont importants et à quel point il faut travailler pour les faire valoir, car ils ne sont jamais acquis. Encore faut-il mettre notre âgisme de côté dans une société obsédée par le culte de la jeunesse, puis écouter la sagesse de ces Jeannettes, car elles ont énormément de choses pertinentes à nous dire. Écoutez, puis lisez « Cent ans d'amour », le plus récent livre de Jeannette, un précieux héritage où elle redonne ses lettres de noblesse à la vieillesse, avec des réflexions sur l'âgisme, sans oublier les petits plaisirs du grand âge et les bonheurs de la sagesse. En ce moment, chez les jeunes, il y a une telle peur de vieillir, tandis qu'il y a des femmes comme moi et des hommes qui sont pleins de vie et de santé et qui veulent profiter de leurs années, confie Jeannette Bertrand à Anne-Marie Dussault, en avouant qu'elle n'aurait jamais pensé vivre jusqu'à 100 ans. Bravissimo. Le terme « Jeannette » est ici utilisé en référence à Mme Jeannette Bertrand. Cela dit, en 2013, le mouvement des Jeannettes est fondé spontanément par Jeannette Bertrand et Julie Snyder et récolte plus de 39 000 signatures pour sa pétition en faveur de la Charte des valeurs québécoises proposée par le gouvernement marois qu'il aimerait bien voir rebaptisée « Charte de la laïcité ». Le 25 mars 2025, Jeannette Bertrand célèbre ses 100 ans. Soufflez les bougies en lisant « 100 ans d'amour », réflexion sur la vieillesse de Jeannette Bertrand, paru le 24 octobre 2024 aux éditions Libre Expression. C'était « Ma lettre d'amour à Jeannette Bertrand », une chronique de Julie Vaillancourt, paru le 21 février 2025 dans le magazine Fugue.